Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Et quand j'entends le mot jugement, le mot juge, le mot tribunal, j'ai envie de m'enfuir, loin de cette parole, loin de ce texte. Seigneur, même si je n'ai tué personne, combien de fois ai-je déjà dit « imbécile » à quelqu'un ou de quelqu'un ? Combien de fois ai-je déjà insulté quelqu'un ouvertement ou dans mon cœur ou dans une parole adressée à un tiers ? Alors, n'y a-t-il aucune échappatoire ? Même le plus honnête des hommes ne résiste pas devant une telle parole. Faut-il donc être parfait pour échapper au jugement ? Et qu'est-ce que le jugement ? Qui es-tu, Seigneur ? Le juge grand et redoutable que l'on voit gravé sur les tympans des églises ? Qui es-tu, Seigneur ? Celui qui trie dans les hommes, les méchants et les bons ? Je ne sais pas quoi en penser. Et j'ai envie d'arracher cette page à ma Bible, ou au moins de la tourner rapidement. Cette page qui me condamne. Viens à mon secours, Seigneur.
Depuis le début de l'histoire humaine, Seigneur, tu cherches la rencontre avec l'être humain. Tu le crées comme un vis-à-vis capable de te répondre. Tu viens parler aux uns et aux autres qui deviennent tes témoins. Ta parole résonne depuis toujours dans une langue humaine, parole transmise oralement de bouche à oreille. Puis, de peur d'en perdre la trace, les hommes l'écrivent sur des supports multiples et surtout dans des textes multiples. Ta parole reste vivante car aucun des textes ne peut l'enfermer définitivement. Que ces textes assemblés depuis des siècles en un seul ouvrage, la Bible, reprennent aujourd'hui à nouveau vie. Que ton esprit souffle sur les pages, qu'il souffle dans nos cœurs pour que nous saisissions ta parole vivante. Qu'il souffle dans notre intelligence, qu'il aiguise notre capacité à comprendre que là où les définitions ont enfermé ta parole dans un carcan, ton esprit nous ouvre l'horizon.
Et nous écouterons maintenant la première lecture biblique au chapitre, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 5 à 9. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères sur les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. »
Et la deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 21. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Thank you.
La liste des lectures bibliques du jour nous propose donc les versets 16 à 21 du chapitre 3 de l'évangile de Jean. C'est la deuxième partie du dialogue de Jésus avec Nicodème. La première partie de ce dialogue est la plus connue. Au début du chapitre 3, c'est sur le thème de la nouvelle naissance et de la liberté de l'esprit. Si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit.
Dans la deuxième partie de ce texte de l'évangile de Jean, que nous vous proposons de méditer, c'est le verset 16 qui est très connu. La suite sur le thème du jugement est beaucoup moins connue et citée. Le verset 16, vous le connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît moins le verset suivant, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Nous retrouvons dans ces deux versets des thèmes importants de l'évangile de Jean. Dieu est amour, le monde, le don du Fils, croire en Jésus, la perdition et la vie éternelle, le jugement et le salut. Mais aujourd'hui, je vous invite à réfléchir quelques minutes sur le thème du jugement. Une chose est sûre, nous les hommes, et surtout nous les chrétiens, les disciples du Christ, nous sommes exhortés à ne pas juger. Cela se trouve dans le sermon sur la montagne de Jésus, au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
C'est un humour un peu gros mais très efficace. Il est vrai en effet que si j'ai une poutre dans l'œil, je suis totalement aveugle, bien incapable de discerner une paille dans l'œil de mon frère. Bien incapable même de voir ce qu'il y a dans son œil, ni même d'apercevoir mon frère. Or, semble dire Jésus, chaque fois que nous jugeons un frère, nous sommes dans cette situation de ridicule et d'hypocrisie. L'homme ne peut pas se mettre à la place de Dieu pour juger l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Je n'ai pas à juger mon frère. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être pardonné moi-même, c'est d'être guéri moi-même, c'est que Dieu me sauve en enlevant la poutre de mon œil ou la paille, comme on voudra.
Mais Dieu alors, Dieu ne juge-t-il pas? Pourquoi parler toujours de l'amour de Dieu et jamais du jugement de Dieu? Le thème du jugement de Dieu est fort et revient fréquemment dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu fait alliance avec Noé, avec Israël, avec nous. Mais Dieu a donné aussi une loi à Israël, le Décalogue, pour concrétiser son alliance, pour se rendre constamment présent dans nos vies, pour que nous nous souvenions de lui. Ce Décalogue est toujours valable, pour nous aujourd'hui, pour nous aider à vivre, pour nous montrer un chemin, pour nous aider à vivre libre. Thank you.
Radio Grand Ciel et émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Père avec Christophe Jubien à la régie. Nous écouterons des intermèdes musicaux de Narciso Yepes à la guitare espagnole. Nous avons écouté des morceaux de Tarigo et Rodrigo. Nous écouterons également Anonimo, Pujol et La Banera de Montasalvage. Donc nous parlons de Jésus-Christ qui n'est pas venu pour juger mais pour sauver le monde. Et Dieu est un Dieu qui juge. Le verbe shaphat en hébreu, le verbe krino en grec, d'où le mot krisis, jugement, krisis également la crise. Il semble qu'il y ait constamment un procès entre Dieu et l'homme, ainsi qu'entre l'homme et Dieu. L'homme respecte mal sa part du contrat, l'obéissance à la loi. Il conteste, il oublie, il est infidèle, il désobéit. Il met en doute. Dieu a-t-il vraiment dit ?
Et Dieu est obligé de juger parce que Dieu est un Dieu juste et vrai. Il faut appeler noir ce qui est noir et il faut nommer péché ce qui est péché. Nos actions ne sont pas indifférentes. Nous en sommes responsables. Nous vivons notre vie sous le regard de Dieu qui est un Dieu de vérité et de justice, un Dieu juge.
Heureusement qu'il y a un juge juste. Heureusement qu'il y a une référence solide. Les psalmistes évoquent parfois ce Dieu juge, au psaume 58, et les humains diront « Oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. » Au psaume 94, « L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice. » Et au psaume 82, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. »
Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et à l'indigent, libérez le faible et le pauvre, arrachez-les à la main des méchants. Dans le psaume 119, le thème du jugement de Dieu revient sans cesse. « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. »
Et au verset 75, où Dieu est à la fois le Dieu qui juge et le Dieu qui pardonne. « Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bienveillance soit donc ma consolation, selon ta promesse à ton serviteur. »
Dans l'Ancien Testament, Dieu est à la fois juste, il juge nos actes, il récompense ou il punit, et à la fois miséricordieux. Il pardonne, il oublie nos fautes, nos péchés. Il est extraordinairement important, je crois, de dire ces deux choses simultanément. Savoir que Dieu juge nos actes, notre vie, est rassurant. Il est donc présent. Il n'est pas indifférent. La vie n'est pas absurde. Il vaut la peine d'obéir à sa loi, de respecter ses commandements. Dieu est un recours. J'en appelle à lui des malheurs du monde et de l'injustice des hommes. J'en appelle à lui de la tyrannie des tyrans, de l'oppression des oppresseurs, de la cruauté des hommes méchants et sanguinaires.
Dieu est un Dieu qui voit, qui approuve et désapprouve, qui récompense et châtie. Il prend à cœur la cause des malheureux et des opprimés, de la veuve et de l'orphelin. Les apocalypses qui foisonnaient dans le judaïsme au temps de Jésus et notre apocalypse de Jean dans la Bible rappellent le grand jugement de Dieu, ce jour de l'Éternel où le mal sera totalement vaincu, où le juge suprême consolera et sauvera les justes persécutés et renversera le trône et la puissance des orgueilleux. L'Apocalypse est donc écrite pour rassurer, non pour effrayer.
Mais Dieu est aussi un Dieu qui pardonne. Car sinon, quel est l'homme qui pourrait se tenir devant lui et dire « Je suis sans péché » ? Ce sont les prophètes qui parlent de ce grand procès où Dieu apparaît à la fois comme notre juge et notre avocat. Vous savez d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, le nom donné au Saint-Esprit par Jésus, c'est le Paraclet, c'est-à-dire le Consolateur, l'Avocat. Mais je parlais des prophètes. Vous connaissez bien le début du livre du prophète Ésaïe. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. »
Et l'autre passage célèbre d'Ésaïe, le début du chapitre 40, ce qu'on a appelé le livre de la consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. »
Jésus, lui aussi, dans le Nouveau Testament, parle de juger et de consoler, de punir et de pardonner. Dans l'Apocalypse, qu'il décrit au chapitre 24 et 25 de l'Évangile de Matthieu, dans cette grande fresque sur la fin des temps et le jugement dernier, il révèle que chacun de nos actes, chacun de nos gestes, spécialement envers les plus petits ou les plus malheureux de nos frères, est pris en compte et jugé. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Car chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, c'est le Christ ressuscité lui-même qui est juge et roi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, nous dit Matthieu, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, etc.
Mais l'évangile de ce jour, sans nier qu'il y ait un juge et un jugement, et sans nier qu'un jour Jésus lui-même soit le juge de nos vies, insiste sur la mission bien précise de Jésus sur la terre, sur le fait qu'il s'agit bien ici d'un évangile, d'une bonne nouvelle, de l'annonce d'une libération, d'une nouvelle possibilité de vivre, d'une nouvelle naissance, d'un pardon, d'un salut. Jésus n'a pas été envoyé dans le monde pour juger, mais pour sauver. Pas pour faire périr, mais pour faire vivre. C'est le magnifique verset de Jean au chapitre 3, verset 16, qu'on a déjà lu. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais bien pour que le monde soit sauvé par lui.
Il y a bien un jugement, certes. Jésus ne nie pas le jugement. Le jugement, c'est notre vie gâchée, pécheresse, brisée, perdue. Le jugement, c'est notre désespérance, notre incapacité, notre mort. Notre jugement est déjà là, inutile d'en rajouter. La culpabilisation, nous savons ce que c'est, comme l'autoculpabilité. C'est une paralysie de plus dans nos vies, une arme de plus de Satan pour nous accabler. On croit que Dieu est l'accusateur, Mais c'est faux. C'est à Satan qu'est donné ce nom d'accusateur. Le Shatan, l'accusateur, le calomniateur, celui qui condamne.
Dieu n'accuse pas, il juge pour nous aider, pour nous pardonner. Celui qui ne croit pas au Fils de l'homme est déjà jugé, dit Jésus. Autrement dit, il reste dans sa misère, dans son malheur. Il refuse la main tendue pour le sauver et il continue à se noyer. Le jugement, dit Jésus, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
L'Évangile n'est pas jugement, mais salut. Il n'est pas condamnation, mais pardon. Il n'est pas culpabilisation, mais justification. Dieu a fait alliance avec nous, alliance d'amour. Il nous a donné sa loi pour nous aider à marcher, à structurer nos vies sous son regard et avec son accompagnement. Au cœur de notre misère, de notre désespoir, nous avons entendu comme la voix d'un appel du Père. Nous avons fait alors un retour vers lui, une conversion vers Dieu, comme le fils prodigue quand il fut au plus profond de son désespoir.
Aujourd'hui, il nous est demandé de croire et de vivre. Celui qui croit au Fils de l'homme, à l'envoyé de l'amour du Père, n'est pas jugé, il a la vie éternelle. Jésus nous a promis de ne jamais nous laisser seuls dans cette aventure nouvelle. Il nous a promis l'aide et la présence constante de son esprit de résurrection, qu'il appelle le Paraclétos, le Consolateur, l'Avocat. Non pas pour nous juger et nous accabler, mais au contraire pour nous consoler, nous rassurer et nous ressusciter. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité.
Ce Saint-Esprit qui est en nous, qui prie en nous, qui est avocat, pour nous persuader que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père, non pas jugés, mais pardonnés. L'Esprit lui-même, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, dit Jésus, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ce monde que Dieu a tant aimé. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Thank you.